va nous arriver un truc. Un truc énorme.
On est en pleine délinquance juvénile.
Step into the light. Allô, tu m'entends ou pas?
Oui, très bien.
Bon, bah nickel. Bah écoute, je lance le générique maintenant. Je suis un peu en retard.
Ok,
c'est parti.
C'est parti.
Bonsoir et bienvenue à toutes et tous sur Radio Campus Orléans. On commence, on n'attend pas la fin du générique ce mardi, nous sommes un peu en retard. Bienvenue, je disais, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours pour une nouvelle édition d'Abattoir Rompu, magazine d'info tous les mardis à 19h. Pour m'accompagner ce soir, Victor. Bonsoir Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Et Cory qui nous accompagne.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Cory qui était dans l'émission précédente avec French Kiss.
C'est ça.
Cory qui nous accompagne ce soir parce que Cory a été un des étudiants à présent à être là. Bénévole
pour...
et voilà.
Ouais, pour les portes ouvertes.
Pour les portes ouvertes. Nous allons parler dans cette émission effectivement de... Voilà, ça y est, c'est fini, on arrête la musique. Nous allons parler de cette journée portes ouvertes, c'était samedi dernier à l'université d'Orléans. J'ai passé le micro d'Abattoir Rompu un peu partout. On aura pas mal de sons très largement consacrés donc à l'université d'Orléans. Nous y revenons son dans quelques minutes. Nous parlons également du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail CHSCT. C'est une instance, une ancienne instance consultative, représentative, chargée de la protection de la santé et la protection des personnels. Je dis ancienne parce que les CHSCT, qui étaient obligatoires dans les entreprises privées et les établissements de plus de 50 salariés, n'existent plus depuis la fin de l'année 2020, remplacés par des comités sociaux d'établissements CSE. Gwenaëlle Fabre, enseignante et membre du CHSCT de l'Université d'Orléans, nous parlera de cette instance à la fin de l'émission. Et pour démarrer, Mourad Guichard, qui est avec nous par téléphone en direct ce soir. Bonsoir Mourad.
Bonsoir. Est-ce de pas être là avant?
Oui.
Parce que naturellement, on fait ça plutôt en différé, mais là, voilà.
Je t'entends, et du coup, je t'entends très mal, en fait. Est-ce qu'on essaie de te rappeler plus tard? Parce que là, je t'entendais très bien tout à l'heure avant le début de l'émission, mais là, je t'entends. Vas-y, réessaye.
Je réessaye.
Oui.
Normalement, on se parle avant, et là, c'est un peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué, hein. Oui, on va faire ça, on va démarrer avec l'université, puis on se rappelle dans quelques minutes. L'université d'Orléans, donc c'était les JPO, journée portes ouvertes. Alors Cory, il y avait pas mal d'enseignants, mais il y avait aussi vous, étudiants, bénévoles. C'était sur comment vous êtes proposé, pourquoi tu t'es proposé. Il faut rappeler où tu es d'ailleurs.
Ouais, alors moi je suis à la fac d'Orléans, plus précisément à celle de lettres, langues et sciences humaines.
C'est ça.
Je suis en L2. Ouais. Et à savoir que moi je les avais déjà faites l'année dernière.
D'accord.
Quand j'étais en L1, donc j'ai réitéré l'expérience. Ça a été encore une fois un plaisir.
C'était un plaisir. Hein. Je suis passé vous voir dans l'après-midi, mais il y a peu de monde l'après-midi. Mais par contre, il y en avait beaucoup le matin.
Ouais, le matin c'était ça. Moi après, je suis arrivé un peu plus vers les coups de 11h et il y en a, ils étaient là dès 10h. 9h30, 10h, et il y avait déjà beaucoup de monde, donc on sent déjà les flux, ceux qui étaient vraiment très intéressés, c'était ceux qui venaient le matin, et il y a eu le battement à la pause de midi, et après, c'était surtout après les conférences en amphi, donc après, une fois qu'ils avaient ils avaient fait les conférences, ils étaient venus nous voir.
C'était donc journée portes ouvertes samedi, une journée pour présenter les 206 formations que propose l'établissement. Première escale pour moi de la journée, la faculté de sciences, dans la salle réservée aux formations en biologie, Mathéo, élève en terminale, et sa maman en train de prendre des informations auprès d'un enseignant.
Oui, sur le nombre d'heures. Donc globalement, voilà, on est une vingtaine d'heures par semaine. C'est pas un emploi du temps comme au lycée, c'est-à-dire que toutes les semaines, il n'y aura pas tel jour, telle heure, tel cours. En L1 un petit peu, à partir de L2, c'est plus du tout le cas, parce qu'il y a les travaux pratiques qui arrivent, donc là, ça va être des semaines des fois de bloquer que de travaux pratiques. Voilà, donc l'emploi du temps change, mais globalement, c'est une vingtaine d'heures, et c'est un rythme de travail qui est équivalent au lycée, voire des fois même supérieur en termes de travail individuel. Voilà. Voilà, donc Parcoursup, ça va être ça, ce parcours-là. Et voilà, donc là, je vous donne la maquette, enfin, l'organisation générale. Après, si vous avez un super QR code ici, et si vous flashez, en fait, vous allez tomber sur le, en farfouillant un peu sur le site, sur ce qu'on appelle le livret de l'étudiant. Vous avez l'intégralité de toutes les descriptifs de toutes les matières suivies. Ça permet de voir justement un peu des mots-clés qui pourraient être indiqués. Plutôt, je préfère faire tel parcours plutôt que tel parcours. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, vous avez un mail ici, et puis après, ils nous rebasculent les mails, il n'y a pas de souci.
Voilà. C'est parfait, merci beaucoup.
Bah, bon
merci, vous avez très bien renseigné.
Bonne
et Mathéo, vous destinez à quoi? Vous voulez vous inscrire en biologie?
Ouais, à la fac. Ouais.
À la fac.
Ouais.
Mais quel bio?
C'est la chimie, sciences de la vie.
D'accord. Vous êtes en quoi là? En terminale hein?
Terminale.
D'accord,
ouais.
Ok. Donc vous avez une idée bien précise, vous voulez vraiment faire la bio?
Bah, pour l'instant, oui.
D'accord. Pour finir, sur quoi?
Plutôt dans le comportement animal.
D'accord. Et maman qui vous accompagne?
Eh ben oui, je l'accompagne pour poser les questions peut-être auxquelles il ne pense pas, au niveau logistique, au niveau financier, au niveau temps, au niveau travail personnel.
Et vous, Mathéo, vous voyez l'université comment? C'est plus de travail, c'est plus d'autonomie, c'est quoi?
Je pense qu'on est plus libre, entre guillemets, par rapport au lycée. Donc ouais, plus d'autonomie et... Ça, c'est chouette.
Ouais, détrompe-toi, t'es Mathéo, détrompe-toi. Il y a toujours un... Vrai ou faux, il y a du boulot.
Ouais, faut bosser.
Faut bosser, hein, Corrie te le dit. Anaïs et Anna sont lycéennes au lycée Mono à Saint-Jean-de-Bray en BTS biotechnologie. Et il existe une passerelle entre ce lycée et l'université d'Orléans pour permettre aux étudiantes et aux étudiants qui le souhaitent de poursuivre leurs études une fois leur BTS obtenu. Écoutez-les.
Moi, je suis en BTS biotechnologie deuxième année. C'est pour voir après quelle poursuite d'études je pourrais faire.
Parce qu'il y a une possibilité pour vous de continuer vos études par l'université.
C'est ça.
Vous avez une idée quand même, une petite?
Oui, peut-être en licence ou en licence professionnelle.
De sciences.
Tout ce qui est dans la biologie.
Et vous?
Pareil, c'est pour la même chose aussi.
Alors, ce que vous faites là, vous êtes lancé dans des études qui sont terminées par un BTS, hein, c'est ça?
C'est ça.
Vous êtes où, au lycée Mono?
Au lycée Mono, ouais. On est en deuxième année.
Et pour finalement finir ici et devenir quoi?
Moi, j'aimerais bien devenir ingénieur. Donc, ce serait un autre moyen, si je ne suis pas prise en école d'ingénieur, de continuer mes études et après de retenter le cycle ingénieur. Et puis voilà, après rentrer dans la vie active pour après.
Moi, travailler dans la recherche sur le domaine de la santé.
Samedi, des étudiantes et étudiants, des gens en formation à l'université, se sont portés volontaires, on vous le disait avec Corrie, pour l'accueil des futurs bacheliers et bachelières. Florine est étudiante en troisième année sciences de la vie. Quels étaient ses conseils et quelles questions lui ont été posées? Elle nous répond.
En quoi ça consiste la science de la vie? Qu'est-ce qu'on fait après une licence science de la vie? Mais aussi des questions sur la vie étudiante, les appartements, les transports en commun.
Vous en avez rencontré beaucoup qui venaient d'ailleurs que de l'agglomération orléanaise?
Oui. J'avais Blois ce matin, après je ne me rappelle plus forcément, parce que des fois on donne des petits noms de villages, mais ça reste majoritairement de la région. Mais
Et généralement, qui viennent avec les parents ou viennent seuls?
Oui, j'ai eu pas mal de parents, mais il y a aussi, en fait, il y a des premières et des terminales qui viennent, et très souvent il y a les parents pour encourager, qui parlent même un peu plus que les enfants.
Alors dites-moi, si, quand il y a des questions qui portent sur l'académie que vous connaissez, mais sur, justement vous nous disiez un appartement, comment vous faites alors?
Je parle de mon vécu et du vécu de mes amis, parce que ça reste quand même une expérience étudiante en général, on a tous vécu à peu près les mêmes problèmes. Donc je réponds vraiment du point de vue étudiant en fait. Et puis je redirige très souvent vers les structures qui existent déjà. Il y a le CROUS, il faut passer par les sites, etc. Ça aide. Donc ouais, c'est ça que je fais parce que...
Et vous, vous rappelez de votre premier contact avec l'Université d'Orléans? Il y a forcément une année, vous êtes venu comme les
étudiants. Je ne suis pas venue aux journées portes ouvertes. Non, ce que je n'avais pas pensé, clairement.
C'est vrai?
Non, pas du tout. J'ai découvert du coup avec les premiers jours de cours, avec la pré-rentrée de L1, où on nous présente un peu encore plus en détail ce qu'on va faire pendant l'année et surtout le semestre. Mais oui, c'était un peu plongé dans un nouveau monde, c'était un peu bizarre, mais c'était cool.
Et maintenant, tout va bien.
Oui, très bien, ça va très bien.
Et ça avait l'air, Florine.
Je ne regrette pas.
Mais non, je ne regrette rien, Florine. Ça avait l'air d'être bien corrigé. Alors, il y a eu des questions qui t'ont été épatées, étonnées de la part des élèves ou de leurs parents ou pas?
En soi, non. Enfin, c'est surtout les profils, on les voit un peu arriver, même comment le dialogue s'installe. Il y en a beaucoup, ils savent déjà précisément ce qu'ils veulent faire. Moi, vu que je parlais de la section LEA, langue étrangère appliquée, en plus spécialité allemand, c'était vraiment niche, on va dire.
Hey.
Et il y en a beaucoup, ils savaient précisément ce qu'ils voulaient faire, partir dans la traduction. Ils nous posaient vraiment des questions. Mais il y a combien d'heures de cours de traduction? Parce que j'ai vu dans une autre filière, en BTS, il y a des trucs comme ça. Moi, j'étais en mode, oui, mais sinon, enfin, des questions comme ça. Puis on passe des fois à des questions par rapport au profil où c'est des... Ils viennent juste visiter, voir comment ça se passe, sans être généralement, on va dire, ou principalement intéressés par la filière. Des questions sur la fac en général, pour l'hébergement, parce que ça peut être une question aussi très importante. Enfin, les études, oui, et puis l'hébergement, comment
ça, donc, et voilà. Ça t'a rappelé ou pas, toi, quand tu es arrivé dans cette université? Est-ce que tu es arrivé d'ailleurs en première année ici à Orléans ou pas?
Moi, avant la licence, j'étais en BTS. Oui. J'ai fait un BTS D'accord. tourisme à Blois, que j'ai validé. Et je suis venu à la fac pour un parcours qui était proposé qu'ici pour aller en Allemagne. Et moi, je n'avais pas fait les portes ouvertes.
Non plus, comme Florine.
Ouais, parce que ma sœur, elle était étudiante avant moi, donc elle m'a pitché vite fait l'université, vu que je ne suis pas loin non plus d'Orléans et de la fac, je connais déjà un peu. Donc...
D'accord. Victor, toi, tu te rappelles, il y a loin.
Il y a longtemps.
Il faut rappeler aux auditeurs que...
J'étais à la fac de droit, à Lille.
À Lille, hein, mais c'est une très grande université. Comment ça se passe, les JPO, là-bas?
Les JPO, je ne les ai pas faites, mais par contre, je me rappelle très très bien de l'après-rentrée, où on nous a expliqué que comme on avait le bac, ça prouvait qu'on avait juste le QI de moule neurasthénique. Après, ils nous ont dit de regarder à notre gauche, à notre droite, et de se rendre compte que techniquement, un seul élève sur trois arriverait à la fin de la troisième année.
Non, ils ne vous ont pas dit ça sérieusement.
Si, ils le disent tout le temps. Ils disent, regardez, là, il y a un étudiant, là, un autre. Il ne restera peut-être que vous, ou même il n'y aura personne.
Ah, ça, j'ai pas vu ça samedi. Ici, peut-être, il ne faut pas ça.
Non, ça, c'est pendant les pré-rentrées, quand c'est vraiment première semaine de septembre, oui. Comment dire, ouais. Ah, je suis content, je vais à l'université.
Ouais, ils mettent un peu la pression. C'était...
Mais je veux des noms tout de suite. Il y a des gifles qui vont se distribuer à Lille. c'était il y a quelques années, donc pour toi, Victor, à Lille.
Oui. J'avais 19 ans, je venais d'avoir ma première année de MPSI, j'avais fait prépa maths sup avant. Et après, je suis allé faire mon droit à Lille. Ouais.
D'accord. Beaucoup, on revient à samedi, donc à Orléans, beaucoup, beaucoup de monde, hein, je vous disais, dans la salle réservée, notamment à la toute nouvelle formation en médecine proposée par l'Université d'Orléans, le parcours d'accès spécifique à la santé, on appelle ça PASS. C'est la première année commune avant que les étudiantes et étudiants n'intègrent des spécialités. Beaucoup de monde, des jeunes, leurs parents, venus parfois de loin, j'ai rencontré Lucie et sa maman venue de Paris.
On a déjà fait une porte ouverte à Paris, du coup là on vient à Orléans pour découvrir un maximum d'université. Moi je vais être dentiste plus tard, du coup je me renseigne comme je peux.
C'est quoi l'idée? C'est que Paris c'est bien bouché, peut-être Orléans qui... Voilà, la formation en santé c'est tout nouveau ici et que c'est peut-être possible d'avoir une place là, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça, j'essaye d'élargir au maximum pour être sûre d'être prise dans une université.
Bon, et vous en avez entendu parler comment de cette formation en santé d'Orléans?
Sur Internet, en faisant des recherches. Et du coup, j'ai découvert que c'était en train d'être créé. J'ai découvert ça il y a 2 ans, je crois, du coup, voilà. Et voilà.
Ouais. Alors là, vous êtes venu, vous avez rencontré quoi? Des médecins? Vous avez rencontré des personnels de l'université?
Oui, des personnels. On a fait 2 conférences, celle sur les passes hélas. Et du coup, il y avait un enseignant qui parlait de ça. Et j'ai fait une autre conférence, du coup, sur le métier de dentiste. Et c'était un dentiste qui était venu nous présenter ce métier.
Okay. Vous êtes accompagné de maman qui est aussi un peu inquiète ou pas?
Inquiète, non, mais il y a besoin de pouvoir se projeter un petit peu. Oui.
Bon. Vous êtes arrivé ce matin pour ça ou...
Alors, sur Orléans, on est arrivé à 14h et on s'est levé de bonne heure parce qu'on a fait la porte ouverte de Paris ce matin, Paris Cité, et puis voilà, on en fait deux. Les portes ouvertes, c'est en ce moment. Hein. On en fait une mercredi, on en fait une samedi prochain.
Vous ne vous êtes pas demandé, vous êtes en quoi là,
en
terminale, hein, d'accord.
Et je prie spécialité maths physique.
Bonne chance.
Merci beaucoup.
Tessia est lycéenne, elle en classe de seconde, elle voudrait devenir cardiologue. Samedi, elle est venue prendre des informations, notamment auprès de Julie, qui est étudiante en deuxième année de médecine à Tours, qui a intégré ce qu'on appelle le dispositif du tutorat. C'est un dispositif pour l'accompagnement pédagogique et psychologique d'étudiants par d'autres étudiants. Elles ont accepté toutes les deux que j'enregistre leur conversation.
Du coup, pour tous les élèves qui arrivent à l'université, tous ceux qui veulent passer le concours, enfin, qui sont bien déterminés, il y en a à peu près combien qui arrivent à être diplômés à la première année?
Ceux qui réussissent la première année, en vrai, c'est assez compliqué à dire comme ça, mais souvent ceux qui sont vraiment déterminés à 100%, soit ils passent, soit après ils vont en LAS 2 et ils réussissent après en LAS 2 à revenir, du coup, à accéder à la deuxième année de licence MMOPK, donc en médecine et tout ça. C'est la première année, enfin voilà, il y a aussi un peu une partie de chance, est-ce qu'on arrive à rapidement s'adapter, mais en tout cas voilà, souvent si on est vraiment motivé, la première année au moins on la valide, et même si on n'accepte pas aux études directement en médecine, on peut aller en LAS 2 et avoir une deuxième chance, et avec les nombres de places qui sont assez corrects, accéder par la suite aux études de santé.
Votre nom, c'est quoi?
C'est Tessia.
Et vous voulez intégrer le parcours médecine?
Oui, tout à fait, je vous faire passe.
Vous êtes en quoi maintenant?
Je suis en seconde.
En seconde, ouais, oui. Donc c'est encore
oui,
dans longtemps.
Peut-être que je changerai d'avis plus tard, ouais. Mais pour l'instant, je vais faire ça et on verra bien.
Vous aviez plein de questions, hein, du coup. C'est vraiment
oui,
ce que vous avez envie de faire.
Je suis déjà pas mal renseignée, mais ouais, c'est ce que je veux faire. Ouais. Je vais être cardiologue.
Et vous, votre nom, c'est?
Je m'appelle Julie et du coup, je suis étudiante en deuxième année de médecine.
Vous êtes où? À Tours, c'est ça?
À Tours, oui.
Et vous êtes tuteur, ce qu'on appelle tuteur, hein, c'est ça?
Alors, je fais partie du tutorat, mais en fait, je m'occupe. Je suis chargée de mission à Orléans. Donc, je vais à Orléans toutes les semaines pour l'école et puis organiser, distribuer les polycopiers qui sont donnés aux tutorés et voilà, faire en sorte que tout fonctionne bien à Orléans.
Et vous rencontrez énormément d'étudiants et d'étudiantes comme Laetitia?
Tessia.
Alors, du coup, moi, j'ai surtout un lien avec les premières années.
D'accord.
Qui sont du coup, je m'en occupe pour. Je m'occupe d'eux pour l'école et tout ça. Mais là, du coup, oui, pour les journées portes ouvertes, j'ai rencontré beaucoup de lycéens, surtout des premières et terminales, voilà, qui sont intéressés par les filières, par les études de santé.
Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous êtes en deuxième année, il y a eu donc la période de passer le concours, y arriver. Qu'est-ce que vous leur dites?
Du coup, je sais beaucoup expliquer la réforme parce que tout le monde ne l'a pas comprise. Et puis, elle est assez complexe. Voilà, il y a pas mal de modalités. Mais voilà, mon rôle, c'est aussi de présenter le tutorat voilà, de Tours qui intervient aussi à Orléans, qui est un super tutorat vraiment avec énormément d'étudiants bénévoles qui donnent de leur temps pour accompagner les étudiants en première année et faire en sorte que leur première année se déroule le mieux possible.
Il y a combien d'étudiants et étudiantes là en ce moment en première année ici?
À Orléans, ils sont 110, il me semble.
D'accord. Et vous vous occupez de combien?
De tous ceux qui sont au tutorat, ils sont à peu près 80.
Okay, très bien. L'Université d'Orléans, c'est aussi des associations d'étudiants qui animent la vie culturelle. L'ESN en est une. Tu les connais, Cory. Alors, c'est Erasmus Student Network Orléans. Ah, je le dis bien. Et t'es présente donc samedi. Cette association accueille et intègre les étudiants internationaux. J'ai discuté avec Marina et Yacine. Écoutez-les.
Ça veut dire Erasmus Student Network, en fait. Il faut savoir qu'en fait, la France, en fait, on est une trentaine. Et on est aussi une association en Europe, également. Donc nous, notre rôle, en fait, c'est d'accueillir les étudiants étrangers qui viennent étudier en France dans le cadre de leur cursus universitaire.
Mais uniquement Erasmus, donc venant d'Europe.
Hein. Erasmus et également hors Europe. Oui, on a des Japonais, on a des Américains, on a des Mexicains. On accueille de tous horizons et on accueille. En fait, notre rôle, c'est d'accueillir les étudiants qui viennent d'ailleurs, internationaux, et de leur faire découvrir la culture française via la gastronomie. Hier, nous avons organisé un atelier autour du vin. Nous avons organisé également un voyage à La Rochelle la semaine prochaine autour de la France et de son merveilleux territoire et également faire le lien entre eux et les étudiants locaux afin qu'ils soient intégrés sur le campus.
Mais qu'est-ce qui vous pousse, vous, tous les deux, à vouloir être comme ça, vous investir là-dedans, à présenter la France à d'autres étudiants? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça?
Premièrement, parce que je suis en histoire. C'est la première chose qui me motive, faire découvrir la culture, faire découvrir l'histoire surtout. Parce que je trouve qu'en fait, l'histoire, c'est ce qui nous unit surtout. Enfin, on est quand même l'un des pays les plus fascinants du monde, mais aussi en Europe. Donc je trouve que c'est aussi un bon critère surtout pour pouvoir présenter un peu l'ensemble. Donc, et puis ce qui m'a motivé surtout, parce que j'aime beaucoup le contact humain aussi. C'est vrai que pendant le Covid, c'était un peu compliqué. Et je pense que la période Covid, en fait, a été une prise de conscience dans l'engagement surtout, notamment parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que depuis certains temps, depuis après Covid, beaucoup de jeunes se sont investis. Il y a une hausse de l'investissement et moi, j'en fais partie.
Oui, du coup, micro monté, c'est mieux. Oui, alors, l'ESN, Cory, un mot, tu les connais bien, c'est ça, c'est ce qu'ils
ont
dit.
Oui, c'est Yacine, ça. Et c'est plutôt bien, je trouve, leur initiative. D'accord. Moi, je ne les côtoie pas tant que ça.
Enfin, mais tu es en contact avec des étudiants allemands ou pas ici?
Alors oui, moi, parce que je suis dans un parcours spécial de deuxième année en licence LEA, qui me permet d'être... c'est un programme, on va dire, quasiment Erasmus, mais c'est un jumelage de Orléans, l'université d'Orléans, avec celle de Ziegen, qui est une heure à peu près de Cologne.
Oui, c'est ça.
Et justement, on a actuellement 3 étudiantes allemandes qui sont là depuis septembre, qui vont repartir techniquement au mois de juin. Et l'année prochaine, c'est moi qui pars. Enfin là, au mois de septembre, c'est moi qui vais là-bas.
Ah, très bien. Ça m'intéresse, des émissions comme ça avec des étudiants étrangers. Mais ce qu'il disait et qui m'a étonné, c'est que je pensais que Erasmus était uniquement sur l'Europe. Mais en fait, l'ESN s'occupe d'étudiants japonais notamment. Erasmus, toi, tu es déjà parti avec Erasmus ou pas?
Non, moi, je ne suis jamais parti avec Erasmus. Mais j'ai eu beaucoup de mes camarades de classe qui ont fait, notamment en Suède, en Italie, aux Pays-Bas... Voilà, c'était assez rigolo, petite anecdote comme ça. Nous, on était en sciences politiques, du coup, enfin, droit, mention sciences politiques. Et on a des étudiants qui sont partis à l'université, pas de Rotterdam, mais pas très loin, je ne me rappelle, Nîmes. Ils étaient partis à Nîmes. Et ils étaient partis en sciences politiques à Nîmes. Et à un moment, ils ont un cours de sociologie des mobilisations. Et en sociologie des mobilisations, il y a le prof qui pose la question aux étudiants, et qui parmi vous a déjà manifesté? Et il y a 4 mains qui se sont levées, c'était 4 étudiants en Erasmus.
Très bien, c'était la partie étudiante pour cette journée Portes Ouvertes. J'ai fait énormément d'interviews, mais on va vous les faire écouter sur la page de la radio et sur la page de À Bâtons Rompus. On va essayer de rappeler Mourad, on va passer un peu de musique pour décrypter, vous le savez, tous les mardis ici, Mourad Guichard, journaliste indépendant, décrypte quelques thèmes d'actualité, notamment il était dans la manifestation ce matin à Orléans. Un peu de musique avec Emel Matlouti, c'est ça ou pas, je ne sais même plus. C'est les Liminanas ? Non, c'est Glock. Allez, on écoute un peu de musique et Mourad juste derrière. À Bâtons Rompus, ça continue.
Allô?
Allô, tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends mieux là?
Oui, c'est bien.
Ah moi je t'entends aussi. Je vais baisser cette musique de merde que j'ai mis là. Allez, on y va. Je te garde, on va. Voilà. On fait essai. Ce qu'on entendait là, c'était Glock. Ça s'appelle That Time of Night. avec un mix de Darren Emerson. Tout ça m'est bien inconnu, mais enfin bon. Mourad est revenu au téléphone, on espère que c'est mieux. Bonsoir Mourad.
Bonsoir, ah. Est-ce que vous m'entendez parfaitement?
Mais là, parfaitement, oui. Carrément. Mais,
bon, à la bonne
Victor
heure.
Également. Mourad, trois sujets à décrypter avec toi. Dans la, je disais tout à l'heure, la manif de ce matin à Orléans. Un petit peu moins de monde, hein, mais pas tant que ça. La manif reste toujours, il y a toujours du monde qui y va, mais un petit peu moins de monde quand même.
Oui, un petit peu moins de monde. Alors, je pense que vraiment, on est sur la jauge de la première manif, en fait, celle du 19 janvier, donc voilà, il y a forcément des gens qui, ben voilà quoi, il a fallu sacrifier 3 jours de salaire, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc là, on est revenu à la jauge du départ, et ça me semble tout à fait correct, et donc on est revenu à quelque chose qui ressemble à entre 12 et 13 000 manifestants sur Orléans, ce qui est vraiment est quelque chose de remarquable et d'historique. Donc ça me semble pas du tout une faiblesse ou quelque chose qui ressemblerait à un recul du mouvement social.
Et les gens sont toujours mobilisés, c'est-à-dire comment vous dites les jeunes, Victor,
déterrent.
C'est quoi déterminé, c'est ça?
Déterminé. Ouais.
Les gens sont toujours déterminés, hein, c'est vrai, pour continuer ce combat.
Oui, vraiment. Je pense que plus les cadres et les ministres et les députés en fait de d'En Marche de Renaissance, donc s'avancent et vraiment sont d'une arrogance particulière, parce que de dire que c'est non négociable, oui, le départ à 64 ans, je pense que ça attise chez les gens qui connaissent vraiment le monde du travail et qui savent que c'est pas possible de bosser quand on fait des travaux particuliers comme l'aide à la personne, comme les BTP et compagnie. C'est impossible de concevoir que on va devoir bosser 2 ans de plus. Et donc je pense que plus l'exécutif et plus les députés et les sénateurs interviennent, je pense notamment à Aurore Berger par exemple, ou Olivier Dussopt, qui est en plus empêtré dans les affaires judiciaires, et plus c'est compliqué de ne pas réagir à ça. Et je pense que on va attendre samedi, hein, samedi 11, il y a une nouvelle manifestation, notamment avec les gens qui ne peuvent pas faire grève parce que pour des raisons financières c'est très compliqué pour eux, et qui vont être présents, j'espère. Pour le coup, dans les rues d'Orléans, on va voir, et de Tours, on va voir ce que ça va donner.
Oui, bien sûr. Deuxième sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est cette tribune du maire d'Orléans, Serge Grouard. C'est une tribune sur Figaro Vox, la page opinion du Figaro, dans laquelle il fustigeait la décision d'un maire d'une ville de la Loire, Bourg-Argental, qui avait décidé de déboulonner la statue de Jeanne d'Arc. C'est pas tellement la tribune qui te chiffonne, mais c'est nous avons reçu, hein, tous les journalistes, un communiqué de la mairie nous disant que Serge Grouard avait fait cette tribune. Et tu voulais en parler ce soir?
Oui, parce que là, ça pose un léger problème, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec la tribune de Serge Grouard sur le Figaro Fox. Alors, Figaro Fox, c'est quelque chose... Figaro Vox, pardon.
Vox, ouais.
C'est quelque chose d'un peu particulier.
Fox, c'est... Ah, oh, en fait, le lapsus, pardon, est magique. Figaro Fox, le lapsus est magique. Allons-y.
Non, bien sûr. Oui, c'était un vrai lapsus. Ouais. Non, en fait, Figaro Vox, c'est une espèce de tendance, j'ai envie de dire, de la droite extrême de ce que peuvent exprimer les gens sur le Figaro. C'est-à-dire que c'est pas le Figaro, c'est au-delà du Figaro. Et donc que Grouard, qui est connu pour être chroniqueur régulier et bénévole, hein, bénévole, donc ça veut dire que il n'est pas rétribué par CNews, il est bénévole, militant, et donc il va sur une chaîne d'extrême droite exprimer ses propos complètement délirant, enfin sur les commerçants, sur l'immigration et compagnie. Bon, soit, mais là, il utilise le matériel municipal, c'est-à-dire qu'il utilise un communiqué de presse à en-tête municipale, donc avec l'argent des contribuables municipaux, pour promouvoir une expression qu'il va développer sur le Figaro Vox, et qui est une expression très clairement d'extrême droite. C'est, en l'occurrence, là on parle de Jeanne d'Arc,
Jeanne d'Arc, oui.
et d'une voilà quoi, d'une statue qui a été déplacée pour des raisons X, Y, Z. Mais en fait, il se sert de ça pour pouvoir dire que en fait, il y a une atteinte à l'histoire, à l'histoire chrétienne, à l'histoire comme une espèce de storytelling française, de roman français. Et c'est très gênant parce que qu'il le pense, qu'il l'exprime, pourquoi pas. C'est un élu de la République, il n'y a aucun problème. Par contre, qu'il utilise l'entête de la ville d'Orléans avec le logo de la ville d'Orléans pour en faire la promotion, c'est un tout petit peu plus gênant. Mmh. Et donc, voilà. Et donc, Jean-Christophe Clausier l'a relevé.
Qui est conseiller municipal, notamment, d'opposition.
Voilà, absolument, d'opposition. L'a relevé et je trouve que ça vaut le coup quand même que la question soit posée parce qu'il y a une toute puissance du maire d'Orléans qui fait qu'il se permet tout et n'importe quoi, en l'occurrence là, hein, c'est n'importe quoi, et je pense que ça vaut le coup d'interroger, est-ce qu'un élu peut s'offrir les services municipaux, les services payés par l'ensemble de ses concitoyens pour promouvoir ces saillies identitaires et réactionnaires, j'en suis pas sûr.
C'est Geoffroy qui parle de sa tribune que j'ai sous les yeux, là, du coup, d'atteinte aux valeurs françaises, hein, quand même.
Il est parti dans un délire identitaire, mais il a le droit, hein, il n'y a aucun problème. On le sait depuis très, très longtemps qu'il est comme ça. Il est parti dans un délire identitaire. Est-ce qu'il a le droit de se servir des services municipaux et de l'entête de la mairie pour le promouvoir, j'en suis pas sûr. Donc ce sera à suivre. Oui. Et évidemment, et je le promets aux auditrices et aux auditeurs de Radio Campus, on leur donnera le fameux de l'histoire.
Absolument. D'ailleurs, je crois que cette statue qui devait être déboulonnée doit revenir. Je crois que j'ai vu l'information. Le maire de Bourg-Argental est revenu sur sa décision, me semble-t-il. Mais c'est encore à vérifier. Mais je crois que oui, il est revenu. Mais reste à savoir si c'est la tribune de Serge Grouard qui lui fait revenir sur sa décision de déboulonner la statue de Jeanne d'Arc dans sa ville. Troisième et dernier sujet, Mourad. On revient à cet article que tu as écrit pour Street Press concernant ces échanges racistes. Ça se passait à la Poste d'Orléans. On a maintenant une décision, hein, je crois, des services
de la Poste. Oui, absolument. Donc c'est merci Radio Campus, hein, et merci Presque. À Bâton Rompu, puisque c'est cette émission et cette radio qui ont avec Street Press raconter et délivrer cette information, mais bizarrement, politiquement, aucun acteur local n'ont vraiment dénoncé cette affaire.
Mais oui, ça n'a pas été repris ni par les confrères, ni par, je pensais, moi, en tout cas, voilà. Qu'il y aurait des politiques s'en emparaient.
C'est très étonnant. Aucun confrère local n'a repris cette affaire, mais n'empêche que, après avoir... avoir campé sur ses positions en disant non, c'est une affaire privée, c'est une boucle WhatsApp, ça n'a rien à voir. Donc que des chefs de service, deux chefs de service, notamment une qui avait sous ses ordres 60 agents salariés, donc de la banque postale, dont quatre qui ont été pointés, hein, quatre qui sont d'origine maghrébine, ont été insultés, je veux dire, c'est complètement hallucinant, je veux dire, avec des histoires d'aller faire comment ça s'appelle
des safaris, hein. Il y a eu ça,
pardon,
il y a eu le safari, hein, c'est ça, il y a eu un safari.
Oui, le safari, merci, excuse-moi. Oui, le safari pour aller choper à Marrakech des salariés qui auraient trompé, qui auraient menti en fait sur leur maladie, et puis des réunions à Paris avec des Africains ou des Antillais, et dire que c'est des réunions avec des orangs-outans, c'est d'une gravité extrême. Enfin, maintenant, suite à ces papiers et suite à l'action des syndicats, notamment de Sud et de la CGT, la fameuse chef de service va être licenciée et il va enfin y avoir une réunion et des enquêtes pour savoir si les fameuses victimes, en fait, les quatre victimes d'origine maghrébine, ont été ou non discriminés par rapport à leur déroulement de carrière et à leur salaire. Absolument. Et donc voilà, il aura fallu que vraiment on se batte et qu'on dénonce cette affaire pour qu'enfin la Banque Postale et le groupe La Poste reconnaissent que oui, effectivement, il y a un problème, alors qu'au départ, dès le départ, ils avaient dit que c'était une affaire privée, mais non, c'est pas une affaire privée, non. Évidemment, puisque des chefs de service qui insultent et discriminent leurs employés et leurs agents, forcément, c'est quelque chose de déterminant dans le fait de savoir s'il faut ou pas les licencier. Donc, ça va se passer comme ça. Ça a été décidé il y a quelques heures. Mmh. Et donc, voilà. Et donc, seul Radio Campus et à bâton rompu, avec évidemment Street Press, ont été les médias à dénoncer cette affaire et l'histoire, une fois de plus, leur a donné raison.
Oui, il faut rappeler que ça se passe à Orléans, donc les confrères.
Oui, absolument. Bon. Mais voilà, c'est l'un des principaux employeurs et que la République du Centre, on va les citer, hein, oui. La République du Centre, France Bleu Orléans, France 3, personne n'a souligné. Il a dénoncé cette infamie.
Il vaut mieux tard que jamais, cher confrère. Hein. Mourad, je ne vais pas te laisser partir sans ceci. Écoute. Mais oui, c'est l'anniversaire de Monsieur Mourad.
Joyeux hein anniversaire.
Ah, merci. C'est vraiment
très gentil. Bah, si. La soirée va être belge, je suppose. J'espère pour toi, en tout cas. Et puis, on se retrouve mardi prochain.
Hein. Avec grand plaisir. Je vous embrasse.
On t'embrasse évidemment avec Stevie Wonder. Happy birthday. Et si, comme Mourad, vous fêtez votre anniversaire en ce 7 février, bon anniversaire également à vous. Nous allons terminer cette émission avec cette interview, je vous disais, de Gwenaëlle Fabre, en baissant la musique doucement. Ben oui, voilà, comme ça. Allez, doucement. Là, voilà. Gwenaëlle Fabre, je vous disais, hein, qui est enseignante à l'Université d'Orléans. Elle est membre du CHSCT de l'université. Le CHSCT, c'est une instance consultative, représentative des délégués, des personnels, n'importe quoi, je dis. Chargée de la protection, parle de la protection et de la protection, donc des personnel. Une ancienne instance, parce que je vous disais en début d'émission, les CHSCT, qui étaient obligatoires dans les entreprises privées, les établissements de plus de 50 salariés, n'existent plus depuis la fin de l'année 2022, remplacés par des comités sociaux d'établissement, CSE. Les préconisations du CHSCT, nous en avons parlé dans cette émission, notamment avec un article de Mourad, je ne sais pas si tu te rappelles, Victor, portant sur l'amiante. Tu te rappelles de ça?
Si, bien sûr. Ouais.
Voilà. Et donc, j'ai retrouvé Gwenaëlle Fabre il y a quelques jours. Gwenaëlle Fabre, qui, après 10 ans de présence dans ce comité, arrête, puisque de toute façon, de fait, les CHSCT s'arrêtent. Je lui ai demandé de me parler des sujets qu'ils ont abordés, des préconisations qu'ils ont pu faire auprès de la présidence de l'Université d'Orléans, notamment de la souffrance au travail. Et ça, vous le savez également, nous en avons beaucoup parlé dans cette émission et sur l'antenne de Radio Campus, notamment lorsqu'il y avait les élections présidentielles à l'université. Écoutez Gwenaëlle Fabre.
Il y a eu de nombreux cas, il y a eu de nombreuses situations problématiques en termes de souffrance au travail, et notamment liées à toutes les, enfin d'une part à la réduction du nombre des agents pour assumer les mêmes tâches, voire plus de tâches, puisqu'on a aussi eu à faire face à une augmentation des effectifs étudiants. Et puis lié aussi à un détricotage de toute la démocratie universitaire qu'il y avait. Donc c'est un détricotage qui date de la LRU, qui a été aggravé après par les lois Fioraso, etc., qui fait que finalement, on est passé d'un fonctionnement qui était historiquement très collégial à quelque chose de moins en moins partagé, de plus en plus autoritaire, et qui a donné lieu à des situations extrêmement problématiques. Voilà.
Les souffrances au travail, ou la souffrance au travail à l'université, vient de quoi ? Quels sont les dossiers que vous avez eus ? Des classements ? Trop de boulot ? Enfin...
Bah, y a un peu de tout ça. C'est quasiment tout le temps un faisceau de situation, pas de situation, mais un faisceau de paramètres qui aboutit à ça. C'est-à-dire que y a bien évidemment le manque de bras, ça c'est qui va rendre les situations de plus en plus complexes. Il y a la non-reconnaissance d'un certain nombre d'investissements qui doivent être faits. Du type, je sais pas, faire de l'administratif, il y en a de plus en plus à faire et il faut le faire, quel que soit son métier. Il y a aussi le fait qu'il y ait une méconnaissance des différents métiers et des rôles de chacun. Donc ce genre de choses avec un règlement intérieur, par exemple, ça pourrait apaiser largement un certain nombre de situations. Et puis il y a toute la puissance qui est donnée par la LRU et depuis au jeu des primes, par exemple, qui permettent de servir, qui peuvent servir à la fois de primes judicieusement réparties quand tout va bien, mais ça peut aussi être des leviers de maltraitance, de copinage, voilà. Et donc globalement, l'injustice est le déficit de démocratie, c'est-à-dire l'impossibilité de faire remonter les problèmes avant que ça soit problématique, et de les faire remonter et surtout d'être entendu, fait qu'on arrive à des situations quasiment indémêlables à certains endroits.
Il y a un sujet sur lequel vous avez alerté, vous avez fait des préconisations, on en a parlé dans cette émission. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est encore en cours, c'est le dossier de l'amiante. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose qui peut être une menace de mort pour du personnel de l'université, pour des étudiants. Ce dossier-là, où on en est ?
Alors, où on en est ? Avant de dire où on en est, je pense qu'il faut avoir deux, trois choses à l'esprit. La première chose à l'esprit, c'est que même si la réglementation prévoit des seuils du type 5 fibres au litre, l'amiante, il suffit d'une fibre pour que ce soit toxique et potentiellement mortel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des maladies, souvent graves, mais pas toutes, mais il y a des maladies qui sont exclusivement, qui ne peuvent être rattachées qu'à l'amiante. C'est-à-dire que quand on a cette maladie, on sait qu'on a été victime d'une exposition à l'amiante. Et puis, il y a d'autres pathologies qui sont reconnues scientifiquement comme étant potentiellement liées à l'amiante, mais qui ne le sont pas de façon systématique. Donc, c'est le cas, par exemple, du cancer du poumon, qui, on dit en général que c'est le tabac, mais l'amiante est un des facteurs extrêmement... et qui a été reconnu là, récemment, comme un des facteurs, une des conséquences potentielles de l'amiante. Et donc, face à l'amiante, il y a toute une démarche nationale, on est très bien au niveau national et international, sur les questions de prévention de l'amiante. Et la prévention du risque amiante, c'est trois volets. Il y a un volet strictement prévention, qui va être d'identifier la présence d'amiante en général, et en particulier avant toute intervention, et tout ça, ça va donner lieu à de la documentation. Ensuite, il y a de la documentation et de la signalétique, des panneaux, des autocollants qui préviendraient sur le mur, attention, là, il y a de l'amiante, donc posez pas comme ça une étagère. Il y a ensuite une dimension sur la conduite des travaux, qui fait que, parce qu'on connaît, enfin, qui fait que dans tous les bâtiments d'avant 97, commandés avant 97, puisqu'après l'amiante a été interdite, on a la possibilité de tomber sur de l'amiante. Donc dès lors qu'on fait des travaux, on a un certain nombre de pré-études à faire qui vont définir notamment la façon dont on va procéder pour les travaux. Et tout ça va donner lieu aussi à de la documentation. Et le troisième volet, c'est la reconnaissance des expositions. C'est-à-dire que quand on a été exposé, l'employeur, alors quand c'est par l'employeur a obligation de faire une reconnaissance d'exposition. Mais par rapport au premier point que je disais, l'intérêt de ces expositions, c'est que de cette reconnaissance, il n'y a pas d'intérêt à être exposé, mais de ces reconnaissances d'exposition, c'est parce qu'en cas de maladie assurément liée à l'amiante, eh bien ce sera à l'employeur, si c'est une exposition dans le cadre professionnel, de prendre en charge un certain nombre de suivis, un certain nombre de choses. Et puis, si on a des pathologies qui ne sont pas spécifiquement liées à l'amiante, mais qu'on a moyen de prouver par de la documentation qu'on a été exposé, alors, bien qu'on souhaite à personne d'avoir à y faire recours, mais alors chacun, que ce soit dans le cadre professionnel ou pas d'ailleurs, chacun peut faire appel au fonds FIVA, qui est le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Par ailleurs, on est en pleine réforme des retraites. On ne sait pas comment sera prise en compte la pénibilité, si l'amiante reviendra. Elle a été à un moment prise en compte, je crois, dans la pénibilité, puis elle en est sortie, puis bon, voilà. Mais ces reconnaissances d'exposition peuvent avoir donc des impacts aussi en termes de trimestre, de retraite, etc., etc. Ce qu'on a obtenu depuis qu'on siège, moi, ça fait une dizaine d'années que je siège, quasiment, depuis 2013, je crois, mais j'ai un an d'arrêt. Ce qu'on a obtenu, c'est que déjà, la documentation qui est à produire dans le cadre des travaux, maintenant elle est produite. Avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on a eu affaire en 2013-2014 à d'énormes chantiers dans un des bâtiments, avec notamment le retrait de 7 gaines amiantées sur un chantier qui n'a pas été réceptionné, qui n'a pas été nettoyé. On a des agents qui ont dû eux-mêmes nettoyer le chantier, certains ont même analysé des gravats qui étaient restés et ont vu que c'était de l'amiante. Enfin, tout ça, voilà, ce genre de choses. Sur ce chantier-là, on n'a jamais obtenu ne serait-ce que le nom de l'état de l'entreprise intervenue. On n'a obtenu aucun des documents obligatoires réglementairement de diagnostic avant démolition ou avant travaux, etc., etc. Et là-dessus, on a toujours pas obtenu non plus de reconnaissance, c'est-à-dire de fiche de reconnaissance d'exposition accidentelle des agents. Ça, c'est un exemple. Et pourtant, on a obtenu dans le cadre de la présidence précédente, on a eu de nombreux CHSCT lors desquels tout le monde a reconnu que le chantier s'était mal passé. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est juste les fiches d'exposition passives des agents. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi eu à la même période des chantiers qui se sont déroulés sans aucun diagnostic, cette fois avec des agents, enfin mis en œuvre par des agents de l'université qui ont manifestement été exposés. Et c'est donc là-dessus, ça c'est le combat sur la reconnaissance. Mais de l'autre côté, ce qu'on a obtenu, c'est que maintenant, normalement, les diagnostics avant travaux sont maintenant produits. Encore faut-il les lire et les mettre en œuvre.
Encore faut-il. Gwenaëlle Fabre, membre de FEU, Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, CHSCT, qui ont fait un excellent boulot. Ce comité n'existe plus, mais nous allons continuer à en parler ici, tellement il y a des répercussions, il y a forcément des choses à dire encore et encore là, sur ce comité. Merci de nous avoir accompagné, Corrie. C'était ta première dans Bâton Rompu, tu reviens. On a pas mal parlé hors micro, il y a des choses à dire également dans ta formation, LEA.
LEA est notamment le cas que la formation chinoise, la promotion va s'arrêter.
Tu me l'apprends et pourquoi?
Tout simplement parce que il y a beaucoup, je pense, c'est niveau de l'enseignement de la langue, vu que c'est une licence, c'est 3 ans, et je crois que c'est vraiment peu pour apprendre la langue et que les professeurs, tout simplement, ne viennent pas forcément de l'université d'Orléans, ils viennent de l'Académie de Paris. Et au fil du temps, les élèves forcément décrochent, comme ne serait-ce qu'après les premiers partiels. Mmh. Et les professeurs, ça les dégoûte un peu de devoir se déplacer, voir qu'il n'y a que 8 ou 10 élèves, alors que... À l'ouverture, il y avait plus d'une quarantaine.
Mais je me rappelle bien, ils avaient lancé ici un institut Confucius. Ils nous avaient invités, tous les journalistes, à venir en parler. Moi, j'en avais parlé ici 2 ou 3 fois sans y croire vraiment. Mm-hmm. Alors, il y a des choses à creuser. Merci de cette information. Et le japonais
de le japonais, ça pourquoi pourrait... pourquoi aussi pour les mêmes raisons. Simplement parce que ceux qui réussissent en soi dans la licence, c'est ceux qui ont eu un parcours déjà de la langue.
D'accord.
Donc là, quand ils arrivent en 3 ans devoir apprendre tout ce qui est un alphabet, la pratique de la langue, la compréhension, c'est peu ou c'est vraiment un apprentissage très intensif que sur certains, même s'ils bossent beaucoup, c'est pas forcément un succès. Et ne serait-ce que quand les Japonais ou les Chinois viennent en France pour faire des interventions, ils constatent souvent que le niveau n'est pas forcément au-delà des attentes.
Bon, tu parlais de chinois, on va se quitter avec du reggae chinois. Il n'y a pas d'émission de reggae ce soir sur Radio Campus Orléans, Raiden Pala. À Tours, vous retrouvez à 21h du jazz. Le dernier mot est pour toi, monsieur Victor. Allez manifester.
Oui, allez manifester.
J'en étais sûr. C'est quand, c'est samedi hein.
Oui, c'est samedi. Samedi, je serai là-bas avec un micro pour interroger les manifestants. Oui. Donc, si jamais vous avez envie de participer, vous seriez les bienvenus.
Carrément.
Je serai là pour m'interviewer si tu veux.
Ça marche.
Carrément. Je vous disais qu'on terminait cette émission avec du reggae chinois. J'ai découvert ça il y a quelques semaines. Et depuis, j'arrête pas d'écouter ce bonhomme, il s'appelle Pouman. Il se cache beaucoup en Chine, parce qu'il a beaucoup de succès dans toute l'Asie. Pas mal aux États-Unis, ça commence. Son reggae est, vous allez voir, assez étonnant. Ça s'appelle Bulang Beauty, ce qu'on va écouter là. La semaine prochaine, donc, il y a les Amis du Monde Diplomatique. Hein, Victor, tu seras là.
Oui.
Vous passez une belle soirée, ça me fera plaisir. Pouman, Bulang Beauty, laissez-vous porter. Ciao.